Bonsoir à toutes et à tous, un nouveau numéro de Wagon Livre, votre rendez-vous littéraire comme chaque mercredi sur Radion à partir de 21h. C'est ce soir le 121e numéro que nous vous proposons. Au programme de notre émission ce soir, un entretien avec la romancière Ève de Castro qui a fait paraître à l'automne dernier un roman historique qui a pour titre Le Roi des Ombres, dont l'action se situe dans les premières années de la construction du château de Versailles, c'est-à-dire dans les années 1660, au tout début du règne du roi Soleil, Louis XIV. Mais avant de vous présenter Ève de Castro, une fois n'est pas coutume, nous allons d'abord accueillir devant notre micro notre libraire partenaire qui, comme chaque semaine, va nous offrir son coup de cœur. Eh bien, voici venir Evelyne Levallois de la librairie L'Autre Monde à Avallon. Bonsoir Evelyne.
Bonsoir Yannick, bonsoir à toutes et à tous.
Alors, un coup de cœur ce soir, on innove, un coup de cœur qui va nous faire découvrir une collection de poches d'une maison d'édition que je te laisse le soin de nous présenter un peu, Evelyne.
Bonsoir. Alors ce soir, je voulais vous présenter la collection poche que viennent lancer les éditions Zulma, petite maison d'édition qu'on connaît fort bien depuis le prix littéraire qui avait couronné Là où les tigres sont chez eux de Blas de Robles et l'an passé le grand succès de Rosa Candida d'Olaf Stottir. Et Zulma, ils sont aussi très connus pour avoir une très très belle maquette, des couvertures magnifiques. Mais dès qu'ils passaient en poche, ces ouvrages perdaient en fait ses spécificités. C'était plus les ouvrages d'Zulma et donc on les confondait avec tous les autres. Là, l'éditeur a décidé de lancer sa propre collection. C'est très très réussi en termes d'objets, en termes de prix. Enfin voilà, c'est vraiment du très beau travail. Il commence par lancer 4 titres. Moi je vais vous parler de 3 titres parce que le 4e je le connais pas, tout simplement. Donc cette première salve, on commence avec Mes seuls dieux de Natasha Apana, auteur indien. C'est des 3 que je vais présenter mon préféré. Ce sont des nouvelles dans l'Inde contemporaine qui mettent en scène des personnages féminins qui sont en but avec la société indienne traditionnelle qui leur laisse pas beaucoup de place. C'est une société assez machiste. Dans une des nouvelles, c'est l'histoire d'une jeune femme qui va épouser l'homme qu'elle aime. Et c'est déjà pas gagné dans l'Inde traditionnelle de pouvoir épouser celui qu'on aime. Il va y avoir un premier écueil qui est l'écueil de la dot. C'est un mariage d'amour, alors pourquoi payer cette fameuse dot à la famille du mari? Voilà ce qu'elle pose comme question à son époux qui lui dit mais c'est des traditions, fais comme on te demande, allez. Et puis depuis petit à petit on sent l'étau qui se referme autour de cette femme par la belle famille qui va mettre la pression et lui qui va laisser le terrain à sa famille, à lui. Tout est dans le non-dit, c'est très subtilement raconté, c'est vraiment très beau. Pour ceux qui aiment les nouvelles, pour ceux qui s'intéressent au monde tel qu'il est aujourd'hui, je reconseille très très chaudement Mes seuls dieux, Apachana, aux éditions Zulma. Le deuxième titre dont je parlerai, autre auteur féminin, grand auteur du catalogue Zulma, Zoya Pirzad, avec un roman, C'est moi qui éteins les lumières. C'est autre très grand écrivain féminin et féministe, comme c'est souvent le cas chez Zulma. C'est une auteure iranienne qui avait reçu le prix Courrier International il y a quelques années. D'habitude, c'est un grand auteur de nouvelles. Celui-ci, c'est son premier roman. Ensuite, je vais parler d'un livre que j'avais beaucoup aimé aussi, mais qui est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile, parce que les deux premiers sont vraiment très simples à lire. Celui-ci est plus référentiel. Il y a tout le fond Borges qui est là derrière, donc on peut lire sans comprendre Borges, mais malgré tout, ou sans connaître Borges, mais malgré tout, ça apporte quelque chose. On est dans un petit village d'Amérique du Sud. Un ingénu un petit peu simple d'esprit, un bibliothécaire qui travaille dans une bibliothèque qui est condamnée puisque la mairie a fermé la bibliothèque parce que les livres sont dangereux, parce que les livres, personne ne s'y intéresse. Toutes les bonnes raisons du monde pour fermer une bibliothèque. Et dans ce contexte-là, un meurtre d'enfant. Et ces deux-là vont tenter de résoudre l'enquête, mais dans des livres. Ils vont pas chercher des indices physiques. Tout est dans l'univers littéraire. Plus difficile, mais vraiment très très bien. Et le dernier, que je ne vous présenterai pas de façon plus détaillée, Sous les bombes de Gert Ledig, qui est le 4e livre de cette sélection Zulma.
Merci Evelyne pour avoir mis un coup de projecteur sur l'édition de poche des éditions Zulma. Et puis comme chaque semaine, bien évidemment, je vais te demander de nous dire quelles sont les meilleures ventes.
Alors, évidemment, tous les auditeurs de Wagon Livre sont encore passés.
Ah ben ça y est, je vois déjà, Immortelle Randonnée de Jean-Christophe Ruffin, meilleure vente, décidément, bravo.
Décidément, merci Wagon Livre, voilà. Ensuite, Inferno, le Dan Brown, tout le monde en parlait, tout le monde continue d'en parler. Il paraît qu'il est pas mal, j'avoue que je n'ai pas regardé, je n'ai pas eu le temps. Mais donc, c'est la deuxième meilleure vente de la semaine. Ensuite, Rien ne s'oppose à la nuit, Delphine de Vigan en poche, qui revient, un long seller là aussi. Une très belle surprise, un très grand écrivain américain, Rick Bass, avec le livre de Yak, qui est publié chez Gallmeister en poche, la collection Totem. Autre, encore un petit merci aux auditeurs de Wagon Livre.
Une bande dessinée, je suis.
La série Long John Silver dont j'ai parlé l'autre jour. Voilà.
Merci beaucoup Evelyne, je rappelle que l'on retrouve ces titres et ta chronique à travers le podcast de l'émission sur le site internet de Radion. On retrouve aussi les titres qui sont mentionnés sur la page Facebook de l'émission Wagon Livre Yannick Petit. Et puis, bien évidemment, Evelyne, toi qui as toujours la forme et qui lit et qui est notre lectrice assidue et passionnée, bien évidemment, je donne rendez-vous mercredi prochain pour un nouveau coup de cœur. Merci encore Evelyne et bonne soirée.
Bonsoir.
Comme annoncé au début de notre émission, je vous propose ce soir un entretien avec la romancière Ève de Castro. Ève de Castro vient de faire paraître aux éditions Robert Laffont un roman historique qui a pour titre Le Roi des Ombres. Ève de Castro est née en 1961, c'est un écrivain français. Elle a notamment en 1992 été lauréate du prix des libraires. Elle a reçu aussi le prix des deux magots et elle a reçu en 1998 le prix Maurice Genevoix, notamment pour un roman paru chez Albin Michel qui avait pour titre « Nous serons comme des dieux ». Elle est scénariste et journaliste et elle a écrit aussi pour la télévision. Je pense notamment à un téléfilm en plusieurs parties qui a été diffusé, je crois, sur France Télévisions dans les années 2000, « Rastignac ou les ambitieux ». Mais on lui doit aussi un grand nombre de romans dont l'action se situe dans le grand siècle, car Ève de Castro aime particulièrement le XVIIe siècle. C'est d'ailleurs à travers cette période qu'elle a commencé dans le monde des lettres avec Les Bâtards du Soleil, paru aux éditions Orban en 1987. On va d'ailleurs se mettre un peu dans l'ambiance musicale de ce grand siècle qu'Ève de Castro fait revivre dans Le Roi des Ombres. Vous pourrez ensuite entendre l'entretien que j'avais enregistré avec la romancière. C'était au Grand Hôtel de la Cloche à Dijon le 25 avril dernier, alors qu'Ève de Castro était l'invitée du Club des écrivains de Bourgogne. Excellente soirée sur Radion. D'abord, une ambiance musicale grand siècle et on se retrouve dans quelques minutes pour l'entretien avec Ève de Castro.
Thank you.
Eve de Castro, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être devant le micro de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion, pour évoquer votre dernier roman. Il est sorti, je crois, l'hiver.
Il est sorti à l'automne.
C'est ça, oui, octobre 2012. Voilà. Il a pour titre Le Roi des Ombres. C'est un roman donc disponible aux éditions Robert Laffont. Et voilà que, j'allais dire une fois de plus, il y avait eu le Roi d'Anse, bon, c'était un scénario. Vous nous ramenez dans un voyage au XVIIe siècle, le grand siècle, au début de la construction, les tout débuts de Versailles. Un Versailles qui n'est pas encore fini, un Versailles qui doit encore être modelé, façonné. Et ce roi des ombres, c'est le roi du petit peuple que l'histoire peut être un peu oublié. C'est un peu les paysans de Lenain, ce petit peuple.
C'est tout à fait ça. Et j'aime bien que vous employiez le mot voyage, parce que c'est très exactement ça. C'est le goût du voyage, le goût d'emmener en voyage après y être moi-même partie, et ce qui me guide dans l'écriture, à la fois dans le choix des sujets, dans le choix de la langue et dans le choix de la construction romanesque. C'est pour ça que j'écris des romans dans l'histoire, pas des biographies historiques classiques, et c'est pour ça que je reviens avec toujours la même passion au XVIIe siècle, sur lequel j'ai en effet pas mal écrit, puisque j'ai commencé avec les bâtards de Louis XIV. Et là, c'est la première fois que je m'intéressais non pas à des personnages de premier plan, les personnages qui sont sur le devant de la scène, mais à ceux qui sont derrière les coulisses et même
un peu dans l'ombre, justement.
Et même sous la scène. Et ce sont en effet les ombres, parce que ce sont ceux qui n'ont pas d'existence propre. Ce sont ceux qui ne sont, aux yeux de ceux qu'ils servent, que des fonctions. Ce ne sont pas des êtres humains au sens littéral du terme. Ce sont juste des utilités, comme on le disait à l'époque. Et je crois que quand on... Enfin, on a énormément écrit sur le XVIIe siècle, mais il me semble qu'on ne s'était pas beaucoup penché sur ces gens-là. Et quand j'avais travaillé sur Louis XIV, sur Monsieur, sur les grandes figures de cette époque, et sur le règne de Versailles, sur le règne de Louis XIV, et sur la construction du château de Versailles, il m'a semblé que s'intéresser à ces petites gens, à ces ombres, à ces gens de l'ombre, c'était donner un éclairage par-dessous qui permettait de mettre en relief d'une façon assez saisissante ces personnages de premier plan et cette histoire qu'on croyait connaître. Parce que quand on va à Versailles aujourd'hui, ce qu'on voit bien évidemment, nous tous, et moi la première, ce sont les ors, les marbres, le merveilleux ordonnancement des jardins, la magie des fontaines. J'étais la semaine dernière aux Grandes Eaux, c'est toujours aussi magique, 300 ans après. Et on ne pense jamais à ceux qui ont creusé le Grand Canal, qui ont trimballé à dos d'hommes des milliers et des milliers de mètres cubes de terre, qui sont morts de fièvre en asséchant les marais, qui sont morts en dressant les murs. Il y a énormément d'ouvriers mutilés ou tués à Versailles. Et j'ai eu envie de raconter à la fois la vie de ces gens qui ont construit le château et la vie des gens qui servaient les grands, qui petit à petit s'installaient à la suite du roi, dans ce qu'est le Versailles d'aujourd'hui.
Et justement, ces petites gens apparaissent, et vous les montrez, et vous les peignez un peu comme des galériens, des gens emprisonnés d'un chantier qui est le plus grand chantier d'Europe, un chantier titanesque, où par exemple, les taupes peuvent complètement anéantir le travail des terrassiers, quand bien même on essaie de les pourchasser. C'est quand même des conditions de travail extrêmement difficiles, vous le dites, en été, c'est 11 heures de travail par jour. C'est l'enfer, effectivement, et on suit une famille, la famille Le Jongleur, à travers la mère, c'est un peu le jeu des sept familles, la mère, les deux fils, et Blanche, la sœur. Alors c'est pareil, les personnages, justement, ces ombres dont vous parliez, ont un parcours, une vie déjà presque brisée.
Ils ont une vie très difficile et un statut qui est au fond, quand j'ai travaillé sur les personnages, les conditions de vie, enfin la similitude, pour autant qu'on puisse faire des rapprochements historiques qui peuvent un peu choquer, est assez comparable à celle des travailleurs immigrés dans les baraquements en marge des grands chantiers de la République, en France ou ailleurs. C'est-à-dire que ce sont des gens qui viennent là pour essayer de sortir de la misère, très simplement, et qui sont prêts à accepter absolument n'importe quelle condition de travail pour s'en sortir. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'au XVIIe siècle, l'ascenseur social sociale fonctionne assez bien. À partir du moment où on a la rage de s'en sortir, où on travaille et où on est prêt à avaler toutes les couleuvres possibles et imaginables, et où parfois on a du talent, tout en étant très, très souvent illettré, il n'était pas nécessaire de se voir ni lire, ni écrire, ni même calculer pour pouvoir sortir du néant. Il y avait des fontainiers, comme le personnage dont
Baptiste.
Je raconte, voilà, Baptiste Jondeur dont je raconte l'histoire, mais aussi des charpentiers, des inventeurs de machines à polir les glaces, qui sortaient de rien du tout. Mais comme Louis XIV, dans sa jeunesse et toute sa vie, a été passionné par les inventions et par les inventeurs, à partir du moment où on arrivait à se faire remarquer grâce à une invention, qui n'était pas immédiatement fauchée par le maître artisan ou par son patron immédiat, on était présenté au roi, ou en tout cas l'invention dont on était le créateur arrivait à l'oreille du roi, et petit à petit comme ça on pouvait s'élever dans l'échelle sociale et se rouler, sinon en une génération, en deux ou trois générations, une pelote et accéder à ce qui serait aujourd'hui la petite puis la moyenne bourgeoisie. Et donc ça fonctionnait.
Et finalement Baptiste pourrait dire à nous deux Versailles.
Absolument, il pourrait. C'est très exactement ça. C'est un Rastignac de 1666, tout à fait.
En revanche,
parti beaucoup plus bas dans l'échelle sociale, parce que c'est un enfant qui est sorti de la fange parisienne.
Alors, il s'est fait violer à 11 ans. Il a grandi à la cour des miracles. Il s'est même prostitué auprès des femmes. Pourquoi vous l'avez autant broyé, ce
Baptiste ? Je ne l'ai pas broyé. J'ai raconté l'histoire d'un enfant qui, comme il y en avait tant à l'époque, vous savez, l'enfance n'avait à cette époque-là pas du tout la valeur qu'on lui accorde aujourd'hui. C'était un temps très bref, parce que quand même, 3 enfants sur 5 mouraient avant l'âge de 10 ans. Et c'est un temps qui n'était pas choyé d'aucune manière. On travaillait dès qu'on pouvait marcher à des tout petits métiers, trieurs d'épingles, épouilleurs. Pour les filles, on ramassait des herbes, on vendait. Et pour les garçons, on faisait ce qu'on pouvait faire. Et quand on était joli garçon avec des longs cils, ce qui est le cas de Baptiste, on vendait ce qu'on avait à vendre. Et c'est un petit gars qui veut, par tous les moyens, se sortir du néant. Et je crois que c'est une époque où, effectivement, on n'avait guère le choix. On n'avait guère le choix. Et que pour se faire remarquer, tout bois était bon pour allumer du feu capable de faire suffisamment de fumée pour attirer l'attention. C'est ce qu'il fait.
On retrouve Eve de Castro dans quelques minutes. Le temps pour nous de marquer une pause musicale. On reprendra cet entretien après Forlan du 4e concert, un morceau de François Couperin interprété par le Concert des Nations sous la direction de Jordi Savall. Excellente soirée sur Radion, le château de Versailles de Louis XIV, un théâtre où la monarchie absolue se construit en se donnant en spectacle. On y revient dans quelques minutes. superbe morceau à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h avec notre invitée Ève de Castro, romancière pour Le Roi des Ombres, paru aux éditions Robert Laffont. On aurait pu d'ailleurs sous-titrer l'émission de ce soir « Si Versailles m'était compté ». Effectivement, le Versailles de Louis XIV est un théâtre où la monarchie absolue se construit en se donnant en spectacle. Et c'est aussi un panier de crabes où 20 000 personnes, du plus haut au plus bas de l'échelle sociale, s'agitent dans les ors et les gravats, l'inconfort et la puanteur, les complots et les coucheries, avec pour tous le rêve de grimper vers la lumière. Le Roi des Ombres, le roman de notre invité Ève de Castro, est l'aventure de celles et ceux dont personne n'a jamais parlé. Les petits, les obscurs. Les ombres qui creusent la terre, dressent les murs, soufflent la poudre sur les perruques, massent les pieds. Celles qui, dans la boue du futur grand canal ou dans la chambre du roi, regarde le siècle à genoux. Ève de Castro, peut-être pourriez-vous nous lire justement quelques pages de votre roman, Le Roi des Ombres, notamment des pages qui racontent le chantier du château de Versailles en construction au début des années 1660.
Le roi prétend contrôler chaque étape, chaque rouage, chaque maillon de l'immense chaîne qui va des carrières de marbre italiennes aux marches de ses escaliers, des forêts hollandaises aux poutres de ses salons, des ardoiseries d'Auvergne au toit de la nouvelle chapelle, des étangs de Clagny et de Marly aux fontaines des frères Francine. Monsieur Colbert suit en comptable pointilleux l'application des règlements visant chaque catégorie d'entrepreneurs, de fournisseurs et d'ouvriers, mais du plus bas au plus haut de l'échelle, ce sont près de 10 000 personnes qui cherchent à tirer leur miel de la ruche, et il faudrait avoir autant d'yeux pour les surveiller toutes. De l'attribution des marchés au stockage des matériaux, c'est une cascade de petites et grandes filouteries. La pierre, le bois, les minerais, les animaux de trait, les charrettes, les barges des gabarres, les routes, ponts, voies fluviales, canaux, les ports avec leurs vaisseaux, leurs matelots et leurs entrepôts, depuis Marseille, Bordeaux, La Rochelle, Le Havre, jusqu'à Paris, sont réquisitionnés et mis au service du chantier, comme si la France entière devait se consacrer à la construction d'un seul château. Sous l'autorité du bailli de Versailles, la police sanitaire de Sa Majesté encadre l'approvisionnement afin d'éviter que des denrées avariées ne déciment la précieuse main-d'œuvre. Le bétail doit être habité sur place, le pain fait sur place, le foin engrangé sur place et l'eau tirée de puits creusés à cet effet. En pratique, les intermédiaires pullulent et s'engraissent, les ouvriers mangent plus de viande salée que de viande fraîche, et la cantine qui fournit bouillon, cidre, bière, vin et eau-de-vie payant fait des affaires fructueuses. Sur le chantier, les palettes de tuiles, d'ardoises, les carreaux en terre cuite, les dalles de pierre et de marbre sont comptées avec soin, mais au moment de les poser, il s'en trouve toujours moins que les registres ne l'attestent.
Merci Ève de Castro. Alors, on va pas trop défloré, mais Baptiste, effectivement, va devenir hydraulicien, ensuite fontainier, il magouille un peu sur le chantier, justement. Enfin, on n'en dit pas plus, parce qu'il faut lire votre roman. Concernant cette vie à Versailles, bien sûr, c'est les bals masqués, c'est les visites nocturnes, c'est le roi et ses maîtresses, ce sont les grottes, le jeu de cache-cache ou de volant, et puis bien sûr, le spectacle des eaux. Et vous écrivez, Versailles doit être le reflet de son souverain, admirable jusque dans les recoins. Mais en ce qui concerne l'hygiène et où faire ses besoins à Versailles, alors là, il y a quelques descriptions et quelques pages qui nous surprennent, puisque finalement, il y a des étrons dans les escaliers, on pisse, pardonnez-moi l'expression, derrière les rideaux. C'est pas si propre que ça, finalement. Pas l'hygiène tout. N'est pas au rendez-vous à
Mais
Versailles.
Mais là aussi, c'est une époque qu'il ne faut pas regarder, je crois, vraiment avec nos critères, avec nos standards. À l'époque, l'eau n'était non seulement pas à la mode, mais elle était crainte, parce que venait avec l'eau, enfin on croyait en tout cas que venait avec l'eau le risque de peste, que l'eau affaiblissant, amollissant, surtout l'eau chaude, les pores de la peau, rendait l'organisme propice à absorber tous les miasmes délétères qui étaient charriés par la laine des malades, par les bêtes, par la laine des mourants également. Et donc on avait très peur de l'eau. Donc on ne se baignait pas. On faisait sa toilette à ce qu'on appelait l'esprit de vin, c'est-à-dire le vinaigre. Et toute forme d'alcool parfumé. Et la toilette se bornait à la figure et aux mains. Et ce qui était considéré comme le signe de propreté et le signe de civilité, parce qu'être propre, c'est être courtois, c'est un signe de bienséance, c'était non pas se laver le corps, mais porter du linge propre. Donc on ne se savonnait pas, on ne se lavait même pas le corps, simplement on changeait, à la cour du moins, on changeait de linge deux ou trois fois par jour, homme comme femme. Et effectivement, ça, en travaillant sur les débuts du château, parce qu'il faut bien imaginez le château dans ses débuts, c'est-à-dire les années 1666, juste au moment où meurt Anne d'Autriche et où commencent vraiment les travaux de Versailles, jusqu'en 1674, qui est la fin de mon histoire. Ce sont les années de jeunesse de Louis XIV. Il faut imaginer une cour très jeune, très vivace, pleine d'instinct, pleine d'ardeur. Voilà, il a entre 27 et 35 ans. Donc c'est encore un homme très jeune, vraiment dans la force de son âge, de ses désirs et de ses pulsions. Et il y a toute une cour de jeunes gens ou de gens jeunes derrière lui qui s'entassent dans un perpétuel chantier, dans le bruit des carriers, dans le bruit des scies à découper, à la fois les métaux et les pierres, dans une poussière invraisemblable, et il n'y a pas d'eau. Il y a deux fontaines pour 3000 courtisans au château de Versailles, et il y a eu qui ont travaillé dans le château et ses environs jusqu'à 30 000 ouvriers. Zéro fontaine pour les ouvriers. Les ouvriers devaient s'approvisionner à l'unique fontaine qui était alors sur la place du marché de Versailles. Par contre, pour les travailleurs qui travaillaient dans les jardins, il y avait des charrettes qui apportaient des bonbonnes d'eau qui servaient à boire aux ouvriers. Mais les familles ouvrières n'avaient pas d'eau. Donc se laver ça aurait été un luxe suprême. Déjà, boire à satiété était un luxe pour les petites gens. Et pour les courtisans, il fallait se débrouiller comme on pouvait. Et il y avait, le long de l'enceinte du château, vraiment le long de toutes les murailles, des baraquements qui, vous savez, comme sur le Ponte Vecchio à Florence, qui revendaient en cascade les restes de la table du roi, plus tout ce dont les gens pouvaient avoir besoin, boissons, nourriture, linge, bois, chandelles, tout ce dont on avait besoin pour vivre et qui était censé être fourni par le roi, mais seulement pour les gens qui avaient chambre au château. Les autres devaient se débrouiller.
Thank you.
il y a des pages qui sont amusantes aujourd'hui en 2013 concernant effectivement où est-ce qu'on fait ses besoins à Versailles, les toilettes n'existant pas. Alors vous écrivez, c'est page 320, derrière presque chaque bosquet on trouve une comtesse ou un Suisse accroupi, sinon dans les petits passages, les cours intérieurs ou sous les escaliers, on glisse dans des flaques innommables. Les marches des degrés secondaires sont fleuries d'étrons. On ne peut traverser certains passages sans poser un mouchoir sur son nez. Les mouches vertes pullulent. Mais tout le monde en use ainsi.
Mais vous savez, pardon de vous interrompre, si vous lisez les mémoires de la princesse Palatine, vous serez effaré. Parce qu'elle raconte dans une langue, mais alors qui est beaucoup plus crude que la mienne, qu'on chie partout à Versailles et que on ne peut pas chier tranquillement parce que chaque fois qu'on veut aller derrière un buisson, il y a déjà un Suisse ou une comtesse en train de. Et est-ce que vous savez ce que c'est que un bourdalou ?
Non.
Bon, un bourdalou est une soucière. J'en ai une qui m'a été transmise de génération.
Les dames utilisaient pendant les messes quand elles avaient envie d'uriner.
Exactement, exactement. C'est une petite saucière que leur suivante glissait sous leur jupe parce que le sermon était trop lent. Et vous imaginez bien qu'il fallait les vider quelque part. Donc on les vidait derrière les piliers de la chapelle. Voilà. Versailles, c'était ça aussi.
Eh bien, je rappelle à nos auditrices et auditeurs que nous sommes avec
Pardon
Ève de Castro.
Pardon si nous vous choquons beaucoup.
Nous parlons de son dernier roman, Le Roi des Ombres, disponible aux éditions Robert Laffont. Et ceci dit, ce sont des pages vraiment, j'allais dire, savoureuses, paradoxalement savoureuses, qui nous font sourire parce qu'il y a des aspects aussi particulièrement tragiques. Et puis, il y a les rituels. Alors, défile, là, on est vraiment dans l'histoire, défile. Colbert, qui est très attentif aux dépenses, hein, il y a M. Levaux, M. Lenôtre, il y a Lully, il y a l'agonie de la reine-mère, Anne d'Autriche, la reine Marie-Thérèse que vous qualifiez, il ne faut pas oublier que la reine Marie-Thérèse est la propre cousine de Louis XIV, c'est un mariage arrangé pour faire une alliance avec l'Espagne.
Hein.
Et de la reine Marie-Thérèse, vous dites qu'elle est blonde, grasse et bête.
Oui, elle l'était. Hélas, est follement amoureuse de son mari.
Et alors ?
Est très malheureuse.
Oui, et justement, dans votre roman, il y a des personnages féminins absolument formidables. Il y a bien sûr Ninon, qui naît en fait dans une famille propriétaire d'établissements de bains à Paris, qui elle-même veut devenir savante. Elle voudrait avoir accès au savoir, mais c'est une femme, et on le lui rappelle, la femme n'a pas le choix de sa carrière. Et d'ailleurs, il y a une citation dans votre roman, Ève de Castro, vous écrivez « La femme n'est donc pas seulement un mal manqué, elle est un mal puni pour l'éternité. »
Oui, vous savez, en fait, quand le propos du Roi des Ombres, c'est d'essayer de restituer, dans la mesure où c'est possible, la chair de ce siècle. Avec ses odeurs, avec ses émois.
Mais pardonnez-moi, mais il y a dans un petit côté
dans sa vérité. Suskin
avec le parfum. Parfois, j'ai pensé à Sébastien Grenouille.
Je suis très sensible aux odeurs, comme tous les gens myopes, je crois, très myopes. Je dois compenser par l'odorat. Et nous parlions à l'instant de l'eau. Le personnage féminin de Nine Navienne, que vous évoquez là, je l'ai placé dans justement au cœur de ce qui fait l'intimité des corps, c'est-à-dire l'hygiène, le bain. Comme je vous l'ai dit, on avait à l'époque peur de l'eau, donc on ne se lavait pas chez soi. En plus, bien évidemment, il n'y avait pas l'eau courante. Par contre, il existait des établissements de bains, des bains publics, des étuves, où les grands, d'une part, et les petites gens, d'autre part, venaient, les grands, pour prendre des bains de délassement ou des bains thérapeutiques, et les petites gens pour se faire barbifier. Parce qu'on était, à l'époque, barbiers étuvistes. Et le plus grand propriétaire de bains de Paris s'appelait François Lavienne. Son nom de jeune homme, c'était Quentin. Il y avait deux frères, François et Jean Quentin, qui étaient tous les deux barbiers. L'un s'est dirigé exclusivement, Jean, vers la barberie, et l'autre vers les bains. Et Louis XIV, qui était lui assez friand de l'eau, quand il était jeune, il se baignait beaucoup dans la Seine, quand il était plus âgé, il allait prendre des bains justement chez le baigneur Lavienne et chercher chez lui ce qu'on appelait à l'époque des confortatifs, qui est l'équivalent exact de notre Viagra d'aujourd'hui, sauf que c'était à base de poudre cantharide, de mouche cantharide, de cornes, enfin, de bois de cerf pilé, de cornes de sanglier, enfin de tas de choses improbables. Mais censé réveiller les ardeurs viriles, et ces confortatifs le rendaient apparemment plus capable dans l'alcôve de satisfaire ses maîtresses. Ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est que Louis XIV a la réputation qui est arrivée jusqu'à nous d'un très grand consommateur de femmes, mais il semblerait qu'au déduit, comme on disait à l'époque, il n'ait pas été un amant si fougueux et si capable, parce que déjà très jeune, enfin à partir de 25-27 ans, il allait chez le baigneur Lavienne chercher des confortatifs et s'y délasser en plaisante compagnie. Et quand il était avec Madame de Montespan, qui avait un appétit d'ogre dans l'alcôve, il avait grand besoin de se prémunir contre ses faiblesses, manifestement. Et ça, c'est une image de Louis XIV qu'on n'a pas. De même qu'on n'a pas l'image du Louis XIV souffrant. Louis XIV ayant eu à cœur de transmettre à la postérité l'image d'un dieu dans un corps d'homme, il s'est attaché toute sa vie à nier son humanité et à nier la part souffrante de lui. Donc, qu'il ait perdu ses cheveux très jeunes, ses dents très jeunes, qu'il ait souffert du ténia toute sa vie, qu'il ait eu des migraines, des insomnies, des vertiges.
Voilà. Joues, il transpire d'abondance pendant son sommeil et ses mains restent moites. Effectivement, vous cassez le mythe. On est loin des portraits officiels de Hyacinthe Rigaud.
Absolument. Mais il y a eu une remarquable exposition à Versailles l'année dernière sur Louis XIV, le roi et l'homme, où on voit bien la distance entre l'homme et la construction de l'image, et comment ce qui nous est arrivé, c'est l'image voulue. Louis XIV, c'est une formidable, enfin le grand siècle, c'est une formidable entreprise de communication avant la lettre. C'est un génial, il avait des conseillers en communication géniaux, et il était lui-même, à cet égard, génial. Et Nine Lavienne, la petite Nine, naît chez le baigneur favori de Louis XIV.
Et elle voit le roi.
Elle voit le roi nu. Elle voit le roi nu. Et par ce petit personnage féminin, qui est une petite fille quand commence l'histoire, elle a 12 ans, elle n'est pas pubère, j'essaye d'emmener le lecteur dans l'intimité des grands, dans ce qu'est la vérité charnelle des grands. Et en même temps, de raconter ce que peut être la trajectoire à l'époque d'une femme qui voudrait, comme tant de femmes aujourd'hui, vivre une vie d'homme, mais dans un corps de femme. À une époque où la femme est considérée comme ce qui serait aujourd'hui un incapable mineur. Vous voyez, la femme n'a pas de statut social. Elle ne peut pas léguer, elle ne peut pas tester, elle n'est même pas maîtresse de ses enfants. De la naissance à la mort, elle est soumise à l'autorité d'abord du père, ensuite, si le père meurt, du frère, puis du mari. Et Nine Lavienne ne veut pas rentrer dans cette trajectoire où la femme est limitée à son ventre. Vous savez, à l'époque, ce que vous lisiez, on est encore dans la tradition de l'Antiquité. On réduit la femme à sa matrice. La femme n'est qu'une matrice. Et on disait à l'époque que dans la matrice des femmes réside un animal glouton qui, si on ne lui donne pas aliment en sa saison, se rebelle, se révolte et rend la femme, ce qu'on appellerait aujourd'hui, enfin, depuis le 19e siècle, hystérique. Et donc, la femme étant soumise aux caprices de sa matrice, l'homme se doit de la brider et donc de la garder sous le boisseau. Et Nine veut échapper à ça. Elle veut faire des études, accéder au savoir, et son rêve est d'être chirurgien, ce qui est rigoureusement impossible à l'époque. Et donc, son histoire est l'histoire d'une petite fille qui essaye d'échapper au sort courant des femmes, et malheureusement le sort la rattrape.
Thank you.
Si vous venez de nous rejoindre, sachez que vous êtes à bord de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion, chaque mercredi à 21h. Nous sommes ensemble jusqu'à 22h avec notre invitée, Ève de Castro, romancière, qui nous parle ce soir de son dernier roman, Le Roi des Ombres, disponible aux éditions Robert Laffont. Alors, bien sûr, on a parlé des différents aspects de la construction du château de Versailles, théâtre où s'organise la monarchie absolue du roi Soleil. Mais le roman de notre invité a pour but surtout de montrer la vie des petits, la vie des sans-grades, de ceux qui ne sont finalement que des fonctions. Alors, Louis XIV et son frère Philippe d'Orléans côtoient, sans les voir, ces ombres qui servent leur plaisir et leur gloire. Et à côté de Baptiste le jongleur, dont nous avons parlé, ce vaurien autodidacte, il y a une talentueuse et risque tout, c'est Nine Lavienne, qui veut échapper au sort commun des femmes. Et notamment, elle veut devenir un grand médecin, un grand savant. Alors, votre roman aussi, Ève de Castro, nous donne à voir ce qu'est la médecine des années 1660.
La médecine de l'époque était très réellement ce que Molière nous en a transmis. Le clistère, la saignée et la purge. Point. C'est tout. Et la médecine alternative était essentiellement à base de simples et à base de recettes de bonnes femmes hallucinantes que j'en ai compulsé des centaines et des centaines. Certaines sont réellement savoureuses. Et sans anesthésie, sans bien évidemment antibiotiques, le traitement contre le paludisme commence simplement dans les années 1670-1680. On ne connaît pas encore le microscope. Nine va se faire importer un microscope de Hollande en pleine guerre de Hollande. La faculté de médecine de Paris refuse les théories anglaises sur la circulation sanguine. Donc la médecine est vraiment balbutiante, empirique et très 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 réactionnaire au sens littéral du terme. Et Nine apprend sur le tas, comme elle peut. S'il faut se travestir en garçon pour pouvoir courir les marchés et récolter des recettes, elle le fait. Et puis, après avoir été petite baigneuse, elle devient apprentie perruquière. Elle apprend aussi par le biais des marchés aux cheveux, des foires qu'elle fréquente pour acheter des toisons sur pied ou des toisons coupées. Elle récolte tout le savoir qui, à cette époque-là, s'échangeait justement sur les foires. Et elle l'applique comme elle peut dans son entourage. Et puis, au moment de la guerre des Flandres, elle part. Et elle s'exerce sur les blessés. Et donc elle apprend vraiment comme on apprenait à l'époque, sur le tas.
Quand bien même Nine a beaucoup de talent, elle n'aurait sans doute rien pu faire contre le cancer qui ronge la reine mère, où là aussi c'est terrible, il y a cette odeur de cette tumeur, cette femme qui agonise.
Mais le cancer à l'époque était considéré médecins, comme en fait la tumeur était comme un fruit, voilà. Donc on traitait les tumeurs et la malheureuse Anne d'Autriche a été traitée comme ça. On découpait le fruit par fines tranches jusqu'à atteindre ce qu'on estimait être le noyau qu'on extrayait. Et chaque jour, donc on découpait une petite tranche et on cautérisait soit au sel gris, soit une fois que la plaie avait été complètement assainie, pensait-on, à la chaux vive, vous imaginez. Donc bien évidemment, les gens mouraient. Comment voulez-vous survivre à des douleurs pareilles et à l'infection ? Alors on mourait soit de douleurs, soit de la gangrène qui se mettait aux plaies. Et ça, c'était la réalité de l'époque. Ça, c'était la chair de l'époque. Et cette petite Nine apprend ça, pratique ça, et puis petit à petit, elle trace son chemin, elle se fait remarquer comme aromathérapeute, ce qu'on appellerait aromathérapeute aujourd'hui. Elle développe une science qui était vraiment à ses prémices au début du règne de Louis XIV et qui, au milieu du règne, alors c'est vraiment affirmé, parce que dans le jardin du roi, Louis XIV a demandé qu'on fasse un jardin de botanique avec une classification des simples et des remèdes en fonction de leur odeur. Et la médecine olfactive, la médecine à base d'huiles, ce qu'on appelle aujourd'hui des huiles essentielles, était très prisée à l'époque, parce qu'on partait du principe que, comme je vous le disais tout à l'heure, l'eau amollit les pores de la peau, mais les pores de la peau sont, pour les gens de l'époque, comme autant de minuscules narines par lesquelles les principes actifs des ingrédients pénètrent dans l'organisme et vont se fixer sur les organes qu'il s'agisse de soigner. Et à chaque pierre ou végétal ou animal sont attachés des principes vitaux dont il s'agit d'extraire soit une huile, soit des poudres olfactives qu'on mélange en proportion très précise et qu'on respire, ou bien dont on se oint, et cette, l'odeur pénétrant par le biais des pores de la peau dans l'organisme, soigne la maladie. Et c'est ce que Nine pratique, et c'est comme ça qu'elle séduit Monsieur Frère du Roi, qui est un toqué des parfums.
Et le parfum est au fondement.
Oui. Mais vous savez, à l'époque, on avait une intimité avec le corps qu'on n'imagine pas aujourd'hui. Les gens recevaient leurs amis ou leurs fournisseurs ou leurs notaires sur leurs chaises percées. Et on se faisait essuyer le fondement par ces gens. Et c'était la chose la plus naturelle du monde. On n'a pas du tout un rapport au corps comparable avec celui d'aujourd'hui. On n'a pas les mêmes pudeurs. Et donc, on masse les pieds des grands, on leur épluche les oignons, on leur oint le fondement, on leur épile les testicules, etc., etc. Et tout ça est assez naturel, en tout cas pour eux. Maintenant, je raconte justement la vie de ceux qui servent et le regard que ceux qui servent et qui sont dans cette intimité-là avec le premier prince du sang ou avec le roi de France portent sur ces personnages historiques.
Alors, les hommes, bien sûr, se déplacent à cheval. Il y a une douleur terrible, ce sont les hémorroïdes. Et alors, le remède contre les hémorroïdes, c'est la sueur de mort.
Oui.
Qu'il faut aller donc chercher sur les cadavres. Ça, c'est oui. Glauque. Hein.
Oui, mais la recette de la momie. Vous avez vu la recette de la momie? Oui. C'est pas mal.
Alors, peut-être que vous pourriez nous parler un peu de la recette de la momie. Alors, la recette de la momie,
vous prenez un homme roux. Parce que le principe vital attaché à la carnation rousse et flamboyante est censé être plus efficient. Un homme roux, fraîchement pendu ou décapité, hein, mais fraîchement. Vous le débitez en morceaux, vous détachez les chairs, vous les faites sécher au soleil, pendant une durée déterminée, suivant une orientation déterminée. Ensuite, vous passez ces chairs au feu, de manière à ce qu'elles soient bien desséchées. Ensuite, vous les pilez. Ensuite, vous les mêlez à de l'huile, de manière à obtenir un baume qui est comparable au baume que les pilleurs de sarcophages récoltaient sous les momies dans les tombes qu'ils ouvraient et qui était censé être un souverain remède. Et ça s'appelle le remède de la momie. Voilà.
Merci Ève de Castro de nous avoir accordé cet entretien. Je rappelle donc le titre de votre roman, Le Roi des Ombres. C'est disponible aux éditions Robert Laffont pour retrouver à la fois le rythme, les fastes, l'éclat de la cour de Versailles, mais aussi ce petit peuple Baptiste, Ninon, à travers le drame de leur vie, mais leur amour aussi, les secrets, les coucheries. C'est un magnifique roman pour retrouver Louis Apollon qui aime le soleil, les feux d'artifice, les jeux d'eau et d'alcôve, les allées rectilignes, les parterres tracées au cordeau. Merci Ève de Castro.
Merci à vous.
Avant de nous séparer, quelques informations et événements littéraires ou culturels dans les semaines à venir. D'abord, un petit clin d'œil à une revue trimestrielle que nous aimons particulièrement ici dans Wagon Livre. C'est le dernier numéro de Pays de Bourgogne qui date d'avril 2013. C'est le numéro 236 avec... au sommaire, un article consacré à Romain Rolland et notamment au journal de Vézelay, un article consacré à Madame de Lamartine, propriétaire de vignes, un article également sur Colette. Enfin, c'est toujours un grand bonheur de lire Pays de Bourgogne avec un dossier consacré aux écrivains connus et à des textes méconnus, notamment ceux de Buffon, de Lagrange, Romain Rolland, Colette, Lamartine. C'est dans le dernier numéro de Pays de Bourgogne. C'est aussi un peu l'époque des concours littéraires, notamment le prix Claude Tillier du pamphlet 2013, dont le thème est libre. Les textes sont à déposer impérativement avant le 30 juillet prochain. Pour plus d'informations, vous prenez contact avec la médiathèque François Mitterrand de Clamecy. Sachez aussi que les prix des gagnants du prix Claude Tillier du pamphlet 2013, eh bien, cette proclamation des prix aura lieu le 30 septembre prochain à la salle polyvalente de Clamecy. Autre concours, mais concours de poésie, cette fois-ci, c'est l'association Art Libre Espace, la bibliothèque municipale Louis Aragon de Migennes et la ville de Migennes organisent donc un jeu concours de poésie sur le thème du voyage. Alors ça nous fait d'autant plus plaisir dans notre émission Wagon Livre, parce que notre wagon chaque semaine vous promène au milieu des œuvres et vous font rencontrer de nombreux auteurs. C'est un concours de poésie ouvert à tous les poètes d'expression française et notamment les mots « gare », quai et bagages, au singulier ou au pluriel, seront présents dans les textes et notamment dans les poèmes présentés. Alors, pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact avec la bibliothèque municipale de Migennes ou alors vous renseigner par courrier à Art Libre Espace, Concours, Moulin Préglin, 60 avenue Édouard Branly, 89 400 Migennes. Concours donc de poésie ouvert à tous les poètes d'expression française. La date limite d'envoi des textes est fixée au 31 août 2013 et la dotation globale en prix pour les lauréats est de 250 euros en chèque, accompagné de nombreux autres lots en livres. À signaler, cette fois-ci, c'est dans le pays avalonnais, c'est demain, jeudi 13 juin, à partir de 18h30. Sachez que les membres du syndicat d'initiative Bourgogne-Terre Pleine vous convient dans la grange municipale de Trévilly à une soirée-rencontre avec Roja Chamancard. Mais qui est donc Roja Chamancard? Roja Chamancard est actuellement en résidence à Vézelay. Elle est poète, elle est née dans le sud-ouest de l'Iran et après des études de littérature dramatique, elle est devenue enseignante à l'université Azad de Téhéran. La jeune auteure, actuellement donc en résidence à Vézelay, proposera au cours de cette soirée des lectures de poèmes en français et en persan. Elle sera d'ailleurs accompagnée de sa traductrice Farideh Rava. Pour toute information autour de cette soirée qui a lieu, je le rappelle, demain, jeudi 13 juin, à la grange municipale de Trévilly, renseignements au 03 86 49 02 82. Je rappelle, 03 86 49 02 82. 40e anniversaire de la mort de Pablo Picasso. À cette occasion, l'association Fondation Christian et Yvonne Zervos organise le vendredi 14 juin prochain à 17h30 à la Maison Zervos à la Goulotte des lectures de textes et de poésie de et sur Picasso, des textes choisis et lus par Cécile Violet, comédienne, et Christian Limousin, écrivain, des textes et des témoignages donc d'André Breton, de Michel Léris, de Gertrude Stein, de Christian Zervos seront donc lus au cours de cette soirée qui débute à 17h30 le 14 juin prochain à la Goulotte. Renseignements au 03 86 32 36 10. Du côté des revues Eh bien, notre coup de cœur à nous dans Wagon Livre va du côté de Pays de Bourgogne, la revue trimestrielle. C'est le numéro d'avril qui est disponible en kiosque et en librairie, le numéro 236, avec un dossier qui a pour thème les écrivains connus et textes méconnus, avec un très bel article sur Madame de Lamartine, propriétaire de vignes, et également un bel article de Michel Potty consacré à Colette et à la Cornuelle. C'est dans Pays de Bourgogne, le dernier numéro. C'est toujours savoureux et très 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 agréable de feuilleter cette excellente revue Pays de Bourgogne. Pour ma part, je vous donne rendez-vous mercredi prochain, 19 juin, toujours à partir de 21h sur Radion, pour un entretien avec Denis Grozanovitch. Denis Grozanovitch qui vient de faire paraître chez De Noël un essai intitulé « La puissance discrète du hasard ». Découverte inattendue, rencontre singulière, coïncidence troublante. Au cours de nos vies, l'essentiel arrive souvent par hasard. Eh bien, dans une promenade où se croisent les souvenirs familiaux, les exploits sportifs et un riche bagage littéraire, Denis Grozanovitch, qui sera devant notre micro, nous invitera à desserrer les contraintes d'un esprit trop rationnel. Depuis les prouesses au tennis de Roger Federer jusqu'aux présages dont semblent parfois porteurs les animaux, en passant par la réapparition d'objets que l'on croyait perdus, l'auteur sait mélanger la grande histoire et l'anecdote, le plus anodin et le plus profond. C'est la semaine prochaine à bord de Wagon Livre avec Denis Grozanovitch, qui d'ailleurs partage sa vie entre Paris et la Bourgogne, puisque Denis Grozanovitch a une maison pas très loin de Clamcy. Bref, c'est mercredi prochain, la puissance discrète du hasard. On en parlera un petit peu plus longuement dans notre rendez-vous littéraire. Pour l'heure, excellente fin de soirée à toutes et à tous. Voici Eric et Pop Rock Collection. Rendez-vous mercredi prochain. Excellente soirée à toutes et à tous. Au revoir.